Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 3 septembre 2021. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. La une de nos informations. Crise en Éthiopie, l'Union africaine demande au gouvernement de faire davantage pour que l'aide humanitaire arrive au Tigré. Au Niger, une épidémie de choléra fait plus de 100 morts. Le gouvernement kényan va saisir la Cour suprême pour contester une décision jugeant illégal un processus de réforme constitutionnelle lancé par le président Uhuru Kenyatta. Tempête Aïda ici aux États-Unis, au moins 44 morts à New York et dans sa région. Selon un nouveau bilan, le président Joe Biden visite aujourd'hui la Louisiane, premier État frappé par Aïda. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. L'Union africaine appelle le gouvernement éthiopien à faire davantage pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire au Tigré et garantir que la population ne meure pas de faim. Les détails avec Eric Manirakiza.
Les femmes et les enfants ne doivent pas continuer à être victimes d'un conflit qui n'est pas de leur propre initiative, a déclaré le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye. Depuis des mois, les organisations humanitaires déplorent de ne pouvoir accéder librement aux populations. Jeudi, le coordinateur de l'aide humanitaire par intérim de l'ONU pour l'Éthiopie, Grant Leighty, a mis en garde contre un blocus de facto qui fait peser le risque de famine. Autorités éthiopiennes et les rebelles du TPLF s'accusent mutuellement d'entraver l'acheminement de l'aide à la population. Le commissaire de l'Union africaine exhorte les deux parties à s'asseoir à la table de négociation, mais le TPLF accuse l'organisation panafricaine de partialité en faveur des autorités d'Addis Abeba. Au moins 400 000 personnes vivent dans des conditions proches de la famine au Tigré, selon l'ONU. Les combats et la crise humanitaire ont gagné ces derniers mois les régions voisines de l'Afar et de l'Amra, où, selon les Nations Unies, 1,7 million de personnes sont confrontées à la faim.
Une épidémie de choléra a fait au moins 104 morts au Niger, parmi 2874 malades recensés dans 6 régions du pays, dont la capitale Niamey. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé aujourd'hui, Jacques Aristide.
4 des régions concernées sont Maradi, Zinder, Dosso et Tarwa, toutes frontalières du Nigeria, également touchées par la maladie. Tillaberi, dans la zone des trois frontières entre Niger, Burkina et Mali, est aussi touchée. La tranche d'âge, comprise entre 15 et 37 ans, est la plus affectée, précise le ministère nigérien de la Santé, qui parle de l'extinction d'une dizaine de foyers sur les 28 actifs à travers le pays. Avec l'appui de Médecins Sans Frontières, l'ONU et l'Union européenne, le Niger tente de juguler l'épidémie en multipliant les campagnes de sensibilisation, en distribuant des produits pour traiter l'eau et en désinfectant des lieux publics, les transports en commun et les puits dans les villages touchés. La population est appelée à se présenter d'urgence dans un centre de soins dès l'apparition de signes suspects de choléra, dont les diarrhées et les vomissements. Les malades sont pris en charge gratuitement, assure le gouvernement, en raison des inondations liées à de fortes pluies qui s'abattent depuis juin sur le Niger. Les experts redoutent une flambée de cette maladie diarrhéique très contagieuse.
Niger, toujours, les premiers cas du variant Delta du COVID-19 ont été détectés en août dans le pays. Le Niger était jusqu'à maintenant relativement peu touché par l'épidémie. 6 cas au variant Delta du COVID-19 ont notamment été détectés, selon le ministre de la Santé, Ilyasu Maina Sara. Le ministre a assuré que ces cas ont été traités et guéris, mais que les formes graves du COVID-19 sont de plus en plus développées. La justice malienne a écroué aujourd'hui un commandant de force spéciale antiterroriste pour le rôle présumé qu'il a joué en juillet 2020 dans la répression sanglante de la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé depuis. Le commissaire divisionnaire Oumar Samake, à la tête des forces spéciales antiterroristes au sein de la police, est la première personnalité placée en détention dans ces investigations lancées en décembre 2020. L'opposition a fait état de 23 morts et l'ONU de 14 manifestants, dont 2 enfants tués pendant la répression. Un tribunal sénégalais a condamné aujourd'hui à des peines de prison avec sursis un producteur et 5 acteurs d'une nouvelle série télévisée. Ils étaient poursuivis après diffusion dans une bande-annonce de scènes décriées comme pornographiques par des organisations musulmanes. Le procureur du tribunal des flagrants délits de Dakar avait requis 2 ans de prison ferme contre le producteur et 1 an ferme contre les 5 acteurs de la série Cirque Noir, tous poursuivis pour diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs, outrage public à la pudeur. Au Kenya, le gouvernement fait appel devant la Cour suprême pour contester la décision d'un tribunal de Nairobi qui a jugé illégale une réforme lancée par le président Uhuru Kenyatta pour modifier la constitution de 2010. Le point avec Abdourahman Dia.
L'objectif à terme est de modifier la constitution pour élargir l'exécutif en créant un poste de premier ministre, 2 vice-premiers ministres et 1 de chef de l'opposition. Le nombre de sièges au Parlement devrait aussi passer de 290 à 360. Mais le 13 mai, un tribunal de Nairobi, saisi par les opposants au texte, avait jugé le processus illégal. Le Parlement avait approuvé le texte 2 jours plus tôt. Il devait ensuite être soumis à référendum, mais les juges ont estimé que le président n'avait pas le droit d'initier une telle révision constitutionnelle. Ils avaient également indiqué que le chef de l'État pouvait faire l'objet de poursuites civiles pour avoir lancé illégalement ce processus. Une décision que le gouvernement avait contestée devant la Cour d'appel qui a infligé un nouveau revers au gouvernement en confirmant le jugement de la première instance le 20 août. Ces décisions ont contrecarré les projets du président Kenyatta à moins 1 an de l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 9 août 2022. Les détracteurs du chef de l'État y voient un stratagème pour se présenter à un 3e mandat. Ils soupçonnent une entente pour un partage du pouvoir avec son rival de toujours, Raila Odinga.
Amnesty International a dénoncé aujourd'hui une nouvelle vague de répression par les autorités du Soudan du Sud depuis un appel à des manifestations pacifiques contre le pouvoir de ce pays miné par la violence, la corruption et la pauvreté. Avant et après le 30 août, les autorités ont arrêté des militants de la société civile et un homme politique et fermé une station de radio et un groupe de réflexion universitaire selon l'ONG. L'Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Norvège ont également condamné dans un communiqué commun les récentes mesures prises par le gouvernement, notamment les menaces d'utiliser des balles réelles contre des manifestants pacifiques, le harcèlement de journalistes et d'organisations médiatiques, les arrestations de représentants de la société civile et l'intimidation de citoyens sud-soudanais. En Libye, de violents affrontements à l'artillerie lourde ont éclaté la nuit dernière entre 2 unités de l'armée dans une banlieue sud de Tripoli et se sont poursuivis jusqu'à ce matin. Ces combats ont opposé la 440e brigade, une unité d'élite des forces armées, à l'organe d'appui à la stabilité, un appareil sécuritaire créé en janvier par l'ancien premier ministre Fayez al-Sarraj. Les autorités n'ont pas fait état de victimes, mais la 440e brigade a indiqué sur sa page Facebook que l'un de ses officiers avait été tué. Tunisie, l'Organisation mondiale contre la torture, a appelé aujourd'hui le président Kais Saied à mettre fin à une série de pratiques arbitraires, en particulier des restrictions de liberté imposées à des politiciens, magistrats et hommes d'affaires. Élu fin 2019, Kais Saied a invoqué la Constitution le 25 juillet pour limoger le chef du gouvernement, suspendre le Parlement et s'arroger tous les pouvoirs. Au Maroc, le Rassemblement national des indépendants, un des favoris du scrutin législatif prévu le 8 septembre, a rejeté catégoriquement des accusations sur l'usage illégal d'argent durant la campagne électorale. Le principal parti de l'opposition a accusé hier le RNI d'inonder la scène politique avec de l'argent. La campagne électorale a démarré il y a une semaine. Une 30aine de partis y sont mobilisés pour tenter de convaincre près de 18 millions de Marocains à se déplacer pour élire les 395 députés et plus de 31 000 élus communaux et régionaux.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le bilan de la tempête Ida s'alourdit sur la côte Est. Les pluies torrentielles et les inondations ont fait au moins 44 morts. Les précisions de John Lindon.
Dans la mégalopole, la police a dénombré au moins 13 victimes, dont plusieurs prises au piège et noyées dans leur sous-sol, des logements rudimentaires et parfois insalubres, aménagés au pied des immeubles de Manhattan, Queens ou Brooklyn. Les pompiers ont porté secours à des centaines de résidents. Juste au nord de Manhattan, dans le comté huppé de Westchester, trois personnes qui avaient tenté de sortir de leur voiture se sont noyées. Un policier affecté à la surveillance du trafic routier est décédé dans l'état voisin du Connecticut. Mais le pire bilan est pour le New Jersey, où au moins 23 personnes ont perdu la vie. À New York, le gigantesque réseau de métro a partiellement redémarré jeudi après l'inondation de nombreuses stations. La Maison-Blanche a déclaré l'état d'urgence dans les États de New York et du New Jersey qui pourront recevoir l'aide fédérale. Le président Joe Biden se rend aujourd'hui en Louisiane, premier État à avoir été frappé par l'ouragan Ida, où il devrait une nouvelle fois appeler à l'union face au changement climatique.
L'attente du nouvel exécutif taliban se prolonge en Afghanistan. Le gouvernement ne devrait finalement pas être dévoilé avant samedi ou plus tôt. La composition du nouvel exécutif fait figure de test quant à la volonté réelle de changement affichée par les islamistes. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Claire Morin-Gibou.
République démocratique du Congo, Simon Koppers, le directeur de la division Afrique centrale au ministère allemand de la coopération, a annoncé des investissements de 214 millions d'euros dans l'agriculture, l'éducation et les infrastructures. Selon Financial Afrique, en août 2020, des investisseurs allemands avaient déclaré avoir des projets relatifs à l'exploitation ferroviaire dans 8 corridors et à l'exploitation du barrage Inga 3. La Banque centrale du Nigeria a choisi l'entreprise de la Barbade, Bint Inc., comme partenaire technique pour la mise en circulation de sa monnaie digitale. L'agence Ecofin précise que ce choix intervient dans un contexte où la monnaie nigériane est sous pression et continue de perdre de la valeur face au dollar. Ici aux États-Unis, le marché du travail a marqué le pas en août. Seulement 235 000 emplois ont été créés le mois dernier, trois fois moins qu'attendu, a annoncé le département du travail. Le variant Delta a fortement ralenti les créations d'emplois.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Suite et fin des matchs de la première journée des éliminatoires du Mondial à Qatar 2022, Zone Afrique ce vendredi. Dans le groupe D, la Côte d'Ivoire n'a pas fait mieux qu'un match nul 0-0 contre le Mozambique. Même score entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Le Nigeria a disposé du Libéria 2-0, 2-1 pour la Zambie face à la Mauritanie. À suivre toujours ce soir, le Ghana qui fait face à l'Éthiopie dans le groupe G. La Tunisie reçoit la Guinée équatoriale dans le groupe B. Le Cameroun joue le Malawi dans le groupe D. Et le Zimbabwe fait face à l'Afrique du Sud dans le groupe G. Hier, l'Algérie a pulvérisé Djibouti 8-0. Le Maroc s'est imposé 2-0 devant le Soudan. 0-0 entre le Kenya et l'Ouganda. 1-1 entre la Namibie et le Congo. Le Bénin a battu Madagascar 1-0. Le Burkina Faso a eu raison du Niger 2-0. La République démocratique du Congo a fait match nul 1-1. Face à la Tanzanie à Lubumbashi. Un match nul, pas du goût du sélectionneur des Léopards, Hector Cooper.
Elle n'est pas tellement contente.
Le match nul, là, je ne suis pas content en réalité. Et moi, je vous dis aujourd'hui que nous avons joué avec 5 joueurs. J'ai eu seulement 2 jours de contact avec eux. J'aimerais vraiment avoir beaucoup plus de temps pour pouvoir entraîner ces joueurs-là. J'espère avant le match du Bénin et régler certaines choses avec les joueurs.
Hector Cooper, sélectionneur des Léopards de la RDC, au micro de Lucien Kaouzi Kocha, notre correspondant Swahili à Lubumbashi. Toujours dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022, dans la zone Europe, la Belgique a battu l'Estonie 5-2 pour la première du Hansi Flick sur le banc. L'Allemagne a laborieusement battu le Liechtenstein 2-0. Pour ses retrouvailles avec son public, l'Italie sacrée championne d'Europe il y a un mois et demi a déçu, ne réussissant pas à faire mieux qu'un match nul face à la Bulgarie 1-1. Après la finale de l'Euro perdue à domicile, l'Angleterre s'est tranquillement remise en route en écrasant la Hongrie 4-0 lors de la quatrième journée des qualifications pour le Mondial 2022 zone Europe. Mauvaise nouvelle par contre pour la France. Son attaquant Kylian Mbappé, touché au mollet droit, a déclaré forfait pour la fin du rassemblement de septembre, a annoncé la Fédération française de football. Le joueur du Paris Saint-Germain a ressenti une douleur à un mollet. Pendant France-Bosnie, mercredi, il a été remis à la disposition de son club avant le départ des Bleus pour Kiev, où ils affrontent l'Ukraine demain samedi, avant de recevoir la Finlande mardi à Lyon.
Page de sport signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour le dossier du jour. Au Sénégal, une large coalition de l'opposition a été mise en place jeudi après-midi pour vaincre la mouvance présidentielle lors des prochaines élections, notamment les locales qui ont lieu en janvier 2022. Les têtes de file de cette coalition dénommée Yewi Askanoui, autrement dit Libérer le peuple, sont Ousmane Sonko, principal opposant, et l'ancien maire de Dakar, Khalifa Babacar Sall. Cependant, certains Sénégalais sont refroidis par l'absence du PDS de Maître Ouad, annoncé comme partie prenante, mais aussi d'autres partis de l'opposition qui jugent la démarche non inclusive. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
La grande coalition de l'opposition, lancée ce 2 septembre, se veut très large car on y retrouve la majeure partie des courants de l'espace politique sénégalais. Mais le retrait du PDS de Maître Abdoulaye Wad fait douter certains sur la fiabilité de ce projet. Boubacar Samb, gérant d'une boutique de cosmétiques, pense que cette coalition sera de courte durée. Pour lui, c'est ce que Maître Wad a compris très tôt.
Cette coalition est bâtie sur des intérêts personnels. Il s'agit d'alliances de circonstances. Moi, je suis un grand patriote et j'aime mon pays contrairement à eux. Membres de l'opposition comme membres du pouvoir, ils sont tous les mêmes. Le bien-être des citoyens est loin d'être leur préoccupation.
Trouvé dans sa gargote, Sohna Ouly Diop ne place aucune confiance en cette nouvelle coalition de l'opposition. Pourtant, elle avait bon espoir que cette entente entre leaders de l'opposition allait être la bonne, mais les nombreuses dissensions notées bien avant le lancement ont fini par la décourager.
La manière de faire de nos dirigeants me fend le cœur. Ils disent agir pour le bien-être des populations, mais ne peuvent même pas s'entendre pour former une coalition. Bougan Gaydani se plaint du choix des couleurs, le PDS, de la démarche adoptée, d'autres ne pas avoir été associés au début du processus. Finalement, on a l'impression que leurs égos sont plus importants que l'intérêt du peuple qu'ils doivent défendre. Bref, nous sommes fatigués. Nous voulons que le successeur du président Macky Sall soit un bon leader, un partisan de la paix.
Que les citoyens se posent des questions sur la fiabilité de ces alliances que certains jugent contre nature, les leaders de l'opposition ont voulu rassurer. Moussa Tine, membre fondateur de la grande coalition de l'opposition, se veut clair. Cette alliance est celle de la rupture.
On va former un bloc. Pas un bloc pour l'intérêt de qui que ce soit, mais un bloc pour le Sénégal. Le Sénégal d'aujourd'hui vaut tous les sacrifices. Pas parce que nous voulons arriver au pouvoir, pas parce que nous avons une gouvernance, pas parce que nous avons besoin. Tout ce qu'on a fait contre Ousmane Sonko, qu'on oublie ça, ce n'est pas notre problème. Pas parce que Khalifa Sall a été condamné, on veut lui une amnistie, ce n'est pas aussi notre problème. C'est parce que nous n'avons jamais eu au Sénégal une gouvernance aussi cynique.
Les leaders de l'opposition estiment que leur nouvelle alliance est l'une des plus grandes jamais formées par l'opposition sénégalaise. Ils doivent encore convaincre certains Sénégalais sur l'opportunité de cette coalition. Pour y arriver, il leur faudra certainement renouer le dialogue avec le PDS de Maître Abdoulaye Wad, qui est toujours un symbole dans l'espace politique sénégalais. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, 12 personnes sont mortes et plus de 4500 sont tombées malades à la suite de la pollution des rivières Kasaï et Chikapa dans le Kasaï. Le gouvernement congolais soutient que Luanda ainsi qu'une société angolaise admettent avoir déversé des déchets toxiques dans ces rivières, mais souhaitent une contre-expertise pour évaluer l'ampleur des dégâts. Eddie Sango a joint le député national élu de Chikapa, Maître Guy Mafuta.
Nous avions déjà en son temps déploré le retard. La pollution des eaux a commencé depuis le 31 juillet dernier et 28 jours après, le gouvernement dépêche une mission qui en réalité s'est limitée à vérifier, à voir, hein, mais sans pour autant accomplir les tâches scientifiques qu'on attendait, c'est-à-dire les prélèvements dans les normes pour savoir réellement qu'est-ce qui a été contenu dans cette eau comme substance toxique. Et là, la population n'a pas encore de solution par rapport à la crise que cette pollution a amenée. La difficulté majeure, c'est l'eau. On ne sait pas boire l'eau, il n'y a pas de forage, ce qui fait que la population est contrainte de recourir à cette même eau qui est polluée. On ne sait pas, est-ce que le danger est encore permanent? Une chose est sûre, c'est que la flore et la faune aquatique a été détruite. Et il faut patienter des années pour voir ce feu, cette rivière retenir encore du poisson dans sa population. C'est quand même une crise alimentaire qui pointe à l'horizon, une crise environnementale qui est là. Et là, il faut maintenant voir comment réparer, comment restaurer la flore et la faune aquatique. C'est cela que nous attendons. Et aussi voir comment indemniser la population qui a subi ça.
Outre la flore et la faune, on parle aussi des morts en termes humains et des malades. Est-ce qu'on a des chiffres sur ces plans-là?
Ce qui est vrai, c'est que la population subit ça dans sa chair. Il y a déjà des nombres assez importants des femmes qui présentent des lésions vaginales. Vous savez, dans ces villages, le bain, c'est dans la rivière. Or, la femme est assez sensible à ce genre de produits. Donc, la femme souffre. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de la diarrhée. On parle de plus de 4000 cas de diarrhée. Il y a aussi des cas de fièvre. Et là, la prise en charge n'est pas assurée. Le gouvernement a apporté un lot de médicaments importants qui jusque-là sont encore stockés. Donc j'imagine qu'on n'a pas eu à identifier correctement les gens en amont.
La vice-première ministre en charge des questions environnementales a déclaré que la société angolaise Kataco ainsi que le gouvernement ont reconnu qu'il y a quelque chose, mais devront envoyer des experts sur place. Qu'attendre de la partie angolaise alors?
Moi, ce qui me dérange, c'est le fait que nous soyons dépendants de la posture de la partie angolaise, qui certes reconnaît cela, mais qui pose des conditions, c'est-à-dire qu'on attend d'abord que leurs experts défendent les invités. Moi, c'est ça qui me dérange un peu. Le danger est là, le dommage est là. À la partie congolaise de prélever, d'établir du point de vue scientifique ce qui est contenu dans cette eau, pour enfin, avant de descendre au niveau de l'Angola, établir les responsabilités de tout un chacun.
Maître Guy Mafuta, député national élu de Tchikapa, dans le Kasaï.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le taux de chômage en Afrique du Sud a atteint 34%, parmi les plus élevés au monde, alors que l'économie du pays est asphyxiée par la pandémie du COVID-19 et les émeutes de juillet dernier. Les femmes noires sont parmi les plus touchées, avec 41% de chômeuses. De Johannesburg, le reportage de Linda Jivtash, récit Jacques Aristide.
Rebecca Moalé cherche un emploi depuis janvier en vain. Elle a récemment décroché un diplôme dans la filière gestion à l'initiative d'une chaîne d'approvisionnement. Elle travaillait déjà dans le domaine du commerce. Ensuite, la pandémie a frappé et elle s'est retrouvée au chômage.
Je postule presque tous les jours. J'ai dû postuler plus de 30 fois depuis, mais je n'ai reçu que 2 réponses. Il n'y a pas grand-chose ici. En fait, j'ai commencé à faire acte de candidature à l'étranger.
Environ 585 000 Sud-Africains ont perdu leur emploi au dernier trimestre, une période marquée par le confinement imposé pour lutter contre la pandémie. Le gouvernement indique que le nombre total de demandeurs d'emploi a atteint 7,8 millions, tandis que 3,3 millions d'autres personnes ont renoncé à leur quête de travail. Dawie Rood est économiste.
Je ne pense pas que nous ayons passé le cap. Je pense que le chômage va probablement continuer à grimper et malheureusement, ce sont les femmes qui vont en faire les frais.
Employée pendant 20 ans tant qu'hôtesse de l'air à la compagnie aérienne nationale sud-africaine, Charity Mokeman n'a pas été épargnée par les suppressions d'emplois l'année dernière. Elle n'avait en aucun cas songé à changer d'emploi avant de se retrouver sur le pavé, mais elle n'a jamais voulu non plus que son mari soit le seul pourvoyeur de la famille.
Quand vous n'arrêtez pas d'entendre parler de suppression d'emplois, vous vous dites qu'il vous faut faire quelque chose. J'ai donc
décidé de voir comment se faire de l'argent.
Charity a fini par emboîter le pas à sa mère et sa passion pour la pâtisserie. Elle s'est donc mise à vendre des gâteaux de chez elle. Des économistes indiquent que les chiffres de l'emploi ne tiennent pas compte de ce type d'entrepreneuriat informel.
Je sens que j'ai aussi un peu plus de contrôle pour ce qui est de ma vie. Et quoi qu'il arrive, les gens ont toujours besoin de manger.
Mais pour les jeunes demandeurs d'emploi comme Rebecca Moalé, c'est leur rêve de bâtir une carrière qui est perturbée. Une situation qui affecte également leur santé mentale.
Je ne me voyais pas déprimée, assise à la maison. Ce n'était tout simplement pas dans mes plans. Je ne l'imaginais même pas.
L'économie sud-africaine a accru au premier trimestre de cette année, mais le chômage va continuer à être élevé d'après des économistes. Face à l'incertitude, Rebecca conclut que tout ce qu'elle peut faire, c'est de prier.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les habitants du Texas qui s'opposent à l'avortement se réjouissent et les partisans du droit à l'avortement protestent alors qu'une loi parmi les plus restrictives du pays sur le sujet entre en vigueur. Reportage Dina Michel, récit Claire Morin-Gibou.
Les défenseurs du droit à l'avortement ont protesté à travers le Texas cette semaine contre une nouvelle loi qui interdit les interruptions volontaires de grossesse lorsque le cœur du fœtus commence à battre à presque 6 semaines. Il pourrait s'agir de la loi sur l'avortement la plus restrictive aux États-Unis. Marie Ziegler est experte en droit de l'avortement.
Cette loi au Texas va interdire de fait environ 90% des avortements qui se produisaient dans cet État. Et rien ne va changer, même si une future contestation judiciaire aboutit.
Les femmes ne savent pas souvent qu'elles sont enceintes avant 6 semaines, font observer les experts. Depuis 1973, les femmes ont le droit à un avortement jusqu'à 22 à 24 semaines de grossesse. La loi du Texas est également unique car ce sont aux citoyens eux-mêmes de la faire appliquer. Marie Ziegler.
Les seules personnes qui peuvent faire appliquer la loi sont des citoyens privés qui intentent des poursuites contre les prestataires d'avortement ou contre les personnes qui aident ou encouragent les avortements. Donc n'importe qui, des membres de la famille ou groupe de défense.
Texas Alliance for Life qui s'oppose à l'avortement. Joe Pojman se réjouit.
Dans les mois à venir, naîtront des enfants qui, autrement, auraient peut-être perdu la vie à cause d'avortement.
Joe Pojman affirme que la disposition qui permet aux citoyens privés de déposer des plaintes civiles contre les cliniques qui pratiquent l'avortement et de gagner au moins 10 000 dollars aura un effet dissuasif.
Les poursuites judiciaires ne nous intéressent pas. Nous voulons juste protéger les bébés.
Monsieur Pojman milite pour l'augmentation du financement de l'État pour les centres de grossesse où les femmes enceintes peuvent recevoir de l'aide et sont encouragées à mener leur grossesse à terme. Le diacre, Mark Fair, est directeur général du centre de vie Saint-Jean-Paul II. Il s'attend à ce que davantage de femmes utilisent des services de son centre en raison de cette nouvelle loi.
En ce moment, nous avons toujours nos vêtements d'été exposés, mais dans quelques mois, quand il fera plus froid ici au Texas, nous les échangerons contre des vêtements d'hiver.
Les droits des femmes vont être menacés par cette loi, affirment les défenseurs des droits à l'avortement, en particulier celles qui n'ont pas les ressources nécessaires pour se rendre dans d'autres États où l'avortement est pratiqué, ou celles qui vont devoir chercher des moyens pour mettre fin médicalement à leur grossesse. Paxton Smith a attiré l'attention au printemps dernier lorsqu'elle a transformé son discours de fin d'année dans son lycée de Dallas en un appel à ses camarades de classe pour qu'ils combattent cette nouvelle loi avant son entrée en vigueur.
Le fait que cette décision qui change ma vie m'ait été retirée et confiée à quelqu'un d'autre est tout simplement incroyablement déshumanisant.
La Cour suprême a voté 5-4 pour laisser la loi du Texas entrer en vigueur. Elle aura aussi à se prononcer sur une loi similaire à sa prochaine audience qui débute en octobre prochain.
Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.